Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans ce dernier épisode de la saison, on part à la rencontre du chef Antonin Mousseau.
J'étais allé en France avec mon père et puis j'avais une odeur de choucroute dans la tête qui me dégoûtait. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je suis arrivé, j'ai dit je veux manger une choucroute, je suis prêt et je l'accepte. Et puis je me suis comme ouvert un jour.
Antonin a créé le restaurant Le Mousseau à Montréal en 2015, ainsi que Le Petit Mousseau 3 ans plus tard. On s'est rencontrés lors d'un jour de fermeture de son restaurant pour parler ensemble de sa jeunesse hip-hop, de rap, de graffiti, mais aussi de sa passion pour la bouffe de cafétéria au Québec.
J'ai une fascination pour ça. C'était la raison de ma joie et de ma peine. Aller à l'hôpital, passer des examens, puis après ça, aller à la cafétéria, puis avoir un lait au chocolat, puis un grilled cheese comme récompense.
Le Mousseau est un peu unique dans ce quartier loin d'être chic. J'adore par exemple le fait que ce restaurant gastronomique soit au même coin de rue qu'un prêteur sur gage. Ça rejoint d'ailleurs une théorie que j'ai sur lui, dont je voulais parler en première partie de cette émission. Pour moi, des restaurants comme Le Mousseau, à Londres, Paris ou New York, il y en a plein. Mais à Montréal, je le trouve un peu seul. Mais justement, est-ce qu'Antonin se sent seul parfois?
Ben oui, mais en même temps, est-ce que ça peut être peut-être une bonne chose? Il n'y a pas beaucoup.
Est-ce que c'est une bonne chose, tu penses?
Écoute, quand on a ouvert, c'est sûr que le concept, je ne l'ai pas inventé, c'est un concept qui est courant dans le monde d'avoir un chef qui va mettre une personnalité à son restaurant. C'est sûr que par après, il y a beaucoup de restaurants qui ont pu assumer des positions plus affirmées, vraiment de dire oui, on va avoir des menus dégustes et tout ça. Puis je pense qu'on a un peu ouvert la porte. On est un peu le premier à Montréal. Mais comme je dis, j'ai rien inventé. Mais c'est sûr que je me sens pas seul, mais je trouve ça le fun d'avoir cette position-là, des fois, de me dire « Ah, mais tu sais, on a été dans les premiers à avoir osé le faire. » Il y avait déjà des menus dégustation à Montréal, mais il y avait toujours une carte à côté. Moi, le but, c'était de faire un menu déguste sans carte pour éviter les pertes. C'est une nouvelle façon de calculer les costs, c'est une nouvelle façon de voir la restauration. Et puis, je pense qu'on a un peu ouvert la porte, autant que d'autres ont ouvert la porte avant nous pour qu'il y ait des gens comme moi qui aient des pensées créatives en cuisine qui ont été vraiment... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été influencé par Vézina, puis La Prise, puis, tu sais, je veux dire, c'est normal. C'est le fun de sentir que j'ai peut-être fait ça aussi pour d'autres personnes. Puis surtout aussi avec l'Instagram, qui est un instrument que je connaissais pas malgré mon âge. Moi, j'avais pas le temps de m'occuper de ces choses-là. Puis maintenant, j'ai des jeunes cuisiniers qui m'envoient des photos de l'autre bout du monde en me disant que je les ai inspirés pour faire tel plat, telle assiette, tout ça. Donc, je trouve ça le fun.
Mais t'as frappé quelques murs, par exemple, parce que vu que t'étais dans les premiers, c'est sûr que toute cette notion de, quand tu parlais des coûts, mais c'était relié aussi avec une notion de réservation. Je sais que t'as eu beaucoup de difficultés à faire comprendre aux gens que tu peux pas choquer un restaurant du jour au lendemain, surtout un restaurant.
Non, mais ça arrive. Ça c'est quelque chose. Là, un moment donné, c'est d'être Don Quichotte aussi contre les moulins. C'est qu'à un moment donné, tu sais, le phénomène des annulations, c'est un phénomène que je peux pas me battre. On peut pas se battre contre. On essaie de trouver des solutions. Les solutions sont dures à trouver, sont les gens comprennent, mais en même temps, je peux pas rien faire. Moi, si ton enfant a la gastro, puis tu peux pas venir, c'est pas... Je veux dire, je comprends en même temps. C'est juste que j'aimerais qu'on ait plus de facilité. J'aimerais que les lois changent au Québec pour qu'on puisse charger le restaurant. Parce que maintenant, seul un tiers parti peut charger. Donc, ça veut dire que moi, je dois m'associer avec une compagnie qui va vendre une place ici et qui, elle, peut prendre une cote sur une annulation et me donner en prenant sa cote à elle. Donc, à un moment donné, ça devient un peu ridicule. J'aimerais qu'on puisse mieux s'occuper de ça et puis qu'on puisse charger, prendre des numéros de carte de crédit et tout ça. Puis, qu'il y ait des politiques. Si tu m'appelles 3 jours avant, c'est correct. Si 24 heures à l'avance, t'es pas là, bien, d'une certaine façon, tu rates. Je vais juste te montrer. Regarde, c'est comme là, samedi, le 27. Donc, on avait 47 réservations. Et sur toute la journée... Tu vois, il y a eu 19 annulations.
Wow!
OK? Donc, c'est pas 19 sur 47. C'est 47 plus 19. J'ai réussi à rerouler des tables. Sauf que le phénomène est quand même... C'est quand même absurde. 19, c'est petit. Ça, c'est juste pour te montrer. Ça, c'est les gens qui ont réservé, qui ont annulé, qui ont réservé, qui ont annulé. Tout juste dans les quelques jours avant la réservation. Donc, le phénomène est énorme. Il faut que ça arrête parce que c'est des coûts pour moi... qui sont énormes. Donc, admettons, prends un exemple. C'est facile quand on a un restaurant comme Le Mousseau. Bon, mais les costs sont fixes, donc tu sais que chaque personne représente un tel montant. On rentrera pas dans les détails, mais le montant minimum, c'est 150 $. Fait que fais-moi une soirée, mets 10 personnes qui annulent. On est déjà dans des montants qui sont... parce que moi, je l'ai, la nourriture. Si on est un mercredi, c'est pas super. Le poisson, je l'ai reçu le mercredi matin, je le repasse le jeudi, c'est correct. Mais moi, j'ai des arrivages. On a des arrivages pour avoir les produits les plus frais possibles, toujours. Et là, si on est le samedi, puis que moi, j'ai 50 clients en réservation, que je m'arrange pour avoir 53, 54 portions de mon truc, puis là, j'ai 10 portions, parce que j'ai 10 personnes qui se présentent pas, mais c'est de la perte pure. Ça, c'est à nous de dealer avec ça, mais en même temps, c'est qu'il y a une réalité, c'est que si les gens veulent manger de la gastronomie à bas prix, il faut qu'ils acceptent aussi les conséquences. Parce que moi, s'il fallait que je vende le vrai prix ici, parce que j'en fais pas d'argent avec le restaurant. Puis tout le monde pense que parce qu'on est plein, on est plein aux as. J'ai rien remboursé depuis le début. Fait que là, si on était capable de monter les prix puis de faire le vrai prix que ça vaut, ben j'aurais un restaurant vide. Je peux pas faire un restaurant pour faire de l'argent. Sinon, j'aurais fait un...
Justement, t'aurais fait quoi?
Ben, j'aurais fait un restaurant italien.
OK, mais un restaurant quand même.
Si je voulais faire de l'argent, je serais dans tout sauf la restauration.
OK, mais justement, ça serait quoi? T'en as jamais eu marre à un moment de tout ça? Puis ben tu t'es pas dit genre, je vais me faire dans un autre métier?
Oui, ben, oui, souvent. J'ai eu beaucoup de dépression dans ma vie. Puis j'ai eu beaucoup de remises en question aussi sur qu'est-ce que je faisais. Est-ce que c'est quelque chose que...
Quand le mousseau était ouvert?
Non, avant. Avant le mousseau, tu sais, j'ai commencé à travailler, ça fait 19 ans que je suis en cuisine cette année. Là. Fait que, tu sais, j'ai commencé plongeur, fait que j'en ai eu des, j'ai travaillé dans des endroits de piètre qualité, puis des conditions de travail vraiment mauvaises, puis tout ça, j'en ai eu plein. Fait que, c'est sûr que...
Mais tu voyais une porte de sortie? Tu te disais, si jamais, genre, tu devais quitter la restauration, tu ferais quoi?
J'allais peut-être devenir bricoleur, ou soudeur, ou je voulais faire quelque chose qui demandait comme... Tu sais, tu fais ton travail, puis quand t'as fini ton travail, tu rentres chez toi, puis tu peux oublier ton travail, puis tu peux... Moi, j'ai d'autres passions. Moi, c'est la musique puis le dessin. Fait que je me disais qu'en ayant un changement de métier comme ça, j'aurais le temps d'avoir mes passions, mais j'ai été rapidement ramené dans le métier parce que je pouvais rien faire. En fait, je pense que je peux rien faire d'autre. Je serais pas capable de rien faire d'autre, mais... C'est sûr que j'aurais... Des fois, j'aimerais ça avoir une toute autre vie, travailler dans un bureau. Moi, ce serait en musique. Moi, ce serait la musique. C'est vraiment ça que je crois que j'aurais pu...
La musique, c'est pas la vie de bureau non plus. Hein.
Non, mais quand je te dis la vie de bureau, je me comprends.
À moi, tu travailles dans un label, puis t'es dans un bureau,
c'est ça,
tu gères des contrats.
C'est parce que j'ai une vision très exacte de ce que je vois. Oui, ça serait... Je pense que si j'étais en musique, je serais dans un bureau, j'aurais mon label, puis il y aurait comme... des super conditions de travail, il y aurait des frigos remplis des salles de réunion avec...
Non, je me vois... Tu veux être Jimmy Iovine?
Ouais. Non, mais je sais pas, je me vois des fois, j'aime me voir dans des situations un peu comme ça, mais non, pour de vrai, je pense que ma vie, c'était faite pour être... Je veux dire, j'ai l'idée de faire le mousseau depuis que j'ai 15 ans à peu près, fait que j'ai toujours voulu avoir mon restaurant qui allait s'appeler le mousseau.
Antonin a longtemps fréquenté les cafétérias dans sa jeunesse pour diverses raisons et en a développé une véritable passion pour ce style de nourriture. On en parle dans cette deuxième partie d'émission, mais avant ça, on a parlé de son autre passion. En effet, j'avais une image d'un Antonin Mousseau très hip-hop et j'ai pas été déçu. Je vous ai épargné en montage notre discussion sans fin sur les meilleurs albums de rap français, mais je ne pouvais pas esquiver cet intérêt si important pour lui qui a démarré très jeune.
J'ai commencé à faire du rap très, très jeune. J'avais un groupe de musique en secondaire 1 qui s'appelait le Hood Ass Project. Et puis, c'était avec Maybe Watson, qui est maintenant dans La Claire Ensemble. Et puis, c'était avec Lowe's, qui est un rappeur anglophone très connu à Montréal aussi. Et on était 6 petits gars. On avait tous des noms plus horribles les uns que les autres à l'époque. Et puis, moi, mon nom, c'était le Bonhomme 7 heures. On faisait du rap. On prenait tous les, on allait acheter des vinyles à l'époque dans les magasins de vinyles très underground. On achetait les versions des chansons avec les beats, les instrus dessus. Et puis on rappait sur les instrus. Et puis par après, moi j'ai commencé avec un petit programme, une petite machine à faire des beats. Et par après, j'ai eu la chance d'avoir accès à un MPC 2000. Et là, j'ai commencé... j'ai eu une carrière avec mon MPC 2000.
Avec le même nom?
Alors là, j'étais Main Bleue. main bleue, comme la main bleue. Et puis par après, j'ai continué à faire un peu de rap avec le collectif Cossessa, duquel je fais partie encore. Donc, c'est sûr que je suis moins actif, mais ça reste que c'est mon crew de graph, c'est mon crew de rap. C'est le
donc, tu continues à graffer, tu veux dire? Ouais. Tu continues à faire des murales?
Ben, les murales, en fait, je t'avoue que je suis un peu rouillé. Ça doit faire un bon 5 ans la dernière fois que j'ai pas fait une murale. Je fais Under Pressure cette année. Alors, je vais me taper un gros piece. J'ai recommencé à sketcher sur Instagram. J'ai un Instagram underground qui s'appelle The Clone One KCXA. Puis c'est que du dessin, des graphes que je fais.
Mais quand t'étais jeune,
oui.
Au tout début, qu'est-ce qui t'attirait dans la culture hip-hop?
Comme quand j'étais jeune, je faisais du skate, fait que j'étais un petit skater qui écoutait du punk avec des cheveux bleachés. Puis un moment donné, bon, le rap et la culture du skate se sont un peu blendés ensemble. C'est l'époque du film Kids, qui est vraiment un film culte là, tu sais, et puis je me suis trouvé là-dedans. C'était moi, j'étais un petit gars, je faisais du skate, je voulais des pantalons larges. J'ai eu la chance. J'ai une famille quand même très éclectique, puis j'ai eu la chance. J'ai trois personnes qui ont fait en sorte que j'ai été éduqué au bon rap très jeune. Okay. Et donc, en fait, quatre personnes. Mais il y a mon père et ma belle-mère, par le fait que ma belle-mère travaillait à Radio-Canada et recevait un nombre astronomique de CD. Et tout ce qui avait l'air d'être du rap, c'est moi qui me retrouvais avec. Fait que je me suis retrouvé avec des disques de Tribe Called Quest très, 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 très jeune, comme vraiment... à ne pas savoir c'est quoi, puis je trouvais ça drôle, la pochette, puis tu sais, l'espèce de... Puis je connaissais rien du tout du rap, à part que mon père me faisait écouter, bon, du MC Solar. Mon père m'a initié à MC Solar, mais c'est tout en rapport avec... On recevait des CD, donc je l'avais. Puis après ça, j'ai ma sœur, qui, elle, avait des amis un peu à gauche, à droite, puis elle avait toujours des mix en cassette avec The Roots, avec Snoop Dogg, avec le premier Snoop Dogg quand il est sorti là, tu sais, genre 93 là, le Doggy Style. Bon, mais j'avais une cassette avec une chanson dessus, puis je me rappelle que je la faisais jouer en repeat. Et puis par après, bon, avec les amis que j'ai eu, puis le fait que j'étais vraiment intéressé au rap, là on parle de là, j'ai peut-être 10 ans là. Ce qui me turnait on, c'est l'échantillonnage, c'est les beats. Moi, je suis un gars de beats, donc cette époque-là, avec des échantillons de violons qui sonnent mal, puis des voix de femmes qui font des ah, puis des affaires de, on est dans une époque où tout est nouveau, puis ces sons-là me parlent, puis c'est ça qui a fait que moi je voulais faire des beats. Donc Main Bleue, quand j'ai commencé à...
Main Bleue, t'avais quel âge?
Ah, Main Bleue, j'avais peut-être 15 ans.
Ouais, donc t'es un peu plus âgé.
Ouais, là je suis plus âgé, je commence à comprendre l'échantillonnage et je découvre en fait le MPC 2000. Et là, je découvre la joie de pouvoir prendre un échantillon d'une musique qui te touche et de la transposer sur un beat avec juste cette partie-là. Puis je pouvais faire des beats et les écouter pendant des fois des 3-4 heures sans en fumant un spliff. Puis je l'écoutais. Puis à un moment donné, je me tannais. Puis là, j'en faisais un autre. Puis donc, Main Bleue, en fait, ça vient de... C'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de n'utiliser que des samples québécois. Donc, le bleu, c'était pour moi la couleur de la musique québécoise. Donc, et la main, c'était la force, c'était la puissance. Donc, c'était d'aller prendre vraiment le meilleur de ce qui avait été fait dans la musique du Québec, dans les belles années golden de Robert Charlebois, Beau Dommage, Harmonium, mais de mettre en valeur cette période-là. Donc, tous les beats qu'il y a sur l'album de Atlas et Main Bleue, à 85-90%, c'est que du sampling québécois. Donc, j'ai du Ginette Renaud, du René Simard, du Nathalie Simard, du Jean-Pierre Ferland. Il y a tout ça caché dans des sons, dans des... Puis, fait que moi, c'est là que je trouvais...
Très local, déjà.
Ouais, mais j'ai toujours relié tu sais, la philosophie du local, je la faisais d'une certaine façon.
Ce qui est marrant, c'est que moi, je suis un ancien triple d'hip-hop. Okay. Hein, je pense qu'on est à peu près dans la même génération. Ouais. Puis, j'avais pas ce réflexe-là de nécessairement créer ma propre musique. J'étais un fan fini. Je pouvais connaître tous les lyrics, puis écouter tous les albums, puis dig in dans un artiste vraiment précisément. Mais toi, on dirait qu'il fallait que tu passes à l'action.
J'ai toujours été un enfant où que tu pouvais me laisser d'une certaine façon tout seul avec des crayons puis du papier. quelque chose de créatif. J'ai de la bouffe, le dessin, la musique, de la façon dont moi j'ai fait de la musique, donc en prenant de l'échantillonnage, puis sans composer, je connais pas mes gammes puis tout ça, mais c'est la même chose que la cuisine, c'est la création, c'est la. Je pense que moi je suis juste une personne créative, puis je me rappelle moi étant jeune, n'importe quelle activité que je faisais, j'avais toujours un cahier puis un crayon, j'écoutais la télé, j'écoutais des films, j'écoutais de la musique, je dessinais.
Plusieurs choses en même temps?
Ouais, puis j'ai un
actif,
souvenir.
Pas juste être passif sur la télé?
Ben, en fait, j'ai un souvenir, OK, de... Je sais plus quel âge j'ai. En fait, c'est quand La Haine est sortie, en fait. C'est vraiment quand le film La Haine est sorti. J'ai ma marraine qui a eu accès à une vidéo, parce que ma marraine était critique, c'est Francine Grimaldi, était dans la culture et tout ça. Donc, elle avait eu une copie vidéo de ce film-là et elle l'avait donné à ma mère en disant « Peut-être qu'Antonin va aimer ça. » Mais moi, j'avais aucune idée. Je veux dire, ça doit être en... Pour de vrai, ça doit être en 94, là. Mm-hmm. Fait que je me rappelle d'être assis. Et j'avais déjà commencé à voir un peu des graphes à gauche, à droite. Puis là, le film commence, je sais pas qu'est-ce que ça va être. Et là, je vois Saïd qui fait un tag et je fais pause. Je m'en vais chercher un cahier et là, je mets mon cahier et là, j'ai fait un graph. J'ai fait comme mon premier graph en écoutant La Haine. Donc, je me rappelle d'écouter La Haine puis d'avoir cette espèce d'émotion. Enfin, je pense que non, je suis juste pas une personne passive, faut que je sois actif, mais en même temps, à l'intérieur de moi, j'ai un côté en ce moment qui veut être très passif parce que je me suis brûlé depuis toutes ces années, fait que j'essaie de des fois, tu sais, puis après, comme j'ai dit, comme après avoir eu la mono, puis après avoir eu beaucoup de dépression et tout ça, j'ai un côté de moi qui aimerait ça, juste ne pas être aussi actif. Mais admettons chez moi, faire du dessin, c'est quelque chose que j'avais oublié. C'est fou, c'est comme si j'étais chez le psychologue en ce moment, parce que je te parle de le truc avec La Haine, mais en fait, bon, il y a 4 mois, je me suis racheté une tablette pour faire du dessin, puis maintenant, je fais du dessin à tous les jours, puis c'est vraiment, c'est ce qui fait que je suis très zen ces temps-ci. C'est le fait de m'asseoir, puis encore une fois, je mets la télé, il y a de la musique qui joue, j'ai la télé, puis je fais mon dessin parce que c'est vraiment, je viens de le dire, c'est moi quand j'étais enfant. Puis c'est pour ça que je me sens bien à faire ça, parce que je pense que c'est le seul moment dans ma journée où je peux tout oublier.
On n'a pas parlé beaucoup de bouffe, par exemple.
Non, tu vas avoir du montage à faire, hein,
tu sais. Tu mangeais quoi quand t'étais enfant, toi?
Bon, ben, moi, faut comprendre que j'ai... Je viens d'une famille aussi qui est une famille... mes parents se sont séparés très tôt. Donc, j'ai pas de souvenir de mes parents ensemble. Donc, j'avais 2 foyers, en plus que j'étais pensionnaire.
Oh.
Ouais. Alors, j'avais... étant jeune, j'allais à l'hôpital très souvent. Puis j'avais des nodules, j'avais des problèmes de santé. Alors, j'avais une fascination pour la bouffe de cafétéria. J'ai une fascination pour ça. Autant que des journées, j'étais tellement... C'était la raison de ma joie et de ma peine. Si je regardais les menus de la semaine, je savais quand j'allais être content puis quand j'allais être fâché, parce que ça me touchait. Moi, la bouffe, c'est relié directement. Si tu me sers quelque chose que j'aime pas, je vais être fâché. Et puis, si tu me sers quelque chose que j'aime, je vais être super heureux. Donc, à l'époque, j'aimais beaucoup aller dans les cafétérias. Et puis, ma mère m'amenait beaucoup à Radio-Canada aussi quand j'étais petit, parce qu'elle travaillait là-bas, donc j'avais accès à la cafétéria. Donc j'aimais beaucoup tout cet environnement-là, un peu des grilled cheese, des club sandwich, des...
Explique à un enfant français qu'est-ce qu'on mange dans une cafétéria au Québec.
Ouais, bon, mais c'est ça, on mange pas bien.
Ah non, mais attends, c'est normal, mais...
Oui, non, mais je veux dire, quand
c'est quoi les classiques de la cafétéria québécoise?
Ben, le hot chicken, donc deux tranches de pain de ménage avec du poulet dedans, et le tout arrosé de petits pois mis en conserve, mis sur le dessus, et d'une sauce brune très gélatineuse et très salée. Ça, des club sandwich, donc un club sandwich, un sandwich au poulet, bacon, tomate et laitue. Ou des grilled cheese, simplement 2 tranches de pain avec un morceau de fromage à l'intérieur cuit sur une plaque. Donc, c'est vraiment...
Il y a des entrées et des desserts aussi?
Ouais, il y a du jello. Il y a du jello, c'est de la gélatine aux fruits. Bon, ouais. T'as du pudding. T'as des affaires. T'as des gâteaux vachons, des petits gâteaux. Tu sais, c'est vraiment une bouffe horrible, en fait. C'est tout ce qu'il y a de pire pour la santé, des huiles hydrogénées et tout ça. Mais ça reste que pour moi, c'est un réconfort, parce que le réconfort, c'était de passer des journées avec ma mère à son travail. Donc, j'allais à la cafétéria, elle me donnait 5$, puis je pouvais aller m'acheter ce que je voulais. Le réconfort, c'était aller à l'hôpital, passer des examens, puis après ça, bon, ben, aller à la cafétéria puis avoir un lait au chocolat puis un grilled cheese comme récompense, ça c'était pour moi, c'était comme c'était mon réconfort. Donc ensuite de ça, quand j'ai été pensionnaire, ben au pensionnat, c'était un peu dur la relation qu'on avait avec la nourriture parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de nourriture
extérieure.
Alors fallait se contenter que ce qu'on nous donnait, et puis ce qu'on nous donnait, ben c'était pas nécessairement tu sais, je veux dire, une personne en cinquième année ou en quatrième année, t'as le droit à deux toasts le matin avec un bol de céréales, c'est déjà bien. Il y a des gens qui ont même pas ça, mais je veux dire, j'ai eu l'impression de manquer de nourriture des fois. Fait que maintenant j'ai une relation avec la nourriture, mon frigo est toujours trop plein. J'ai un peur de manque, puis quand j'en fais trop, puis c'était une drôle de relation que j'avais. Mais moi,
est-ce qu'il y avait des techniques dans la cafétéria? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on savait entre élèves?
Ben oui, écoute, le secret, c'était de se proposer à la plonge. Alors on faisait pas la vraie plonge, mais en fait on classait la vaisselle avant que le plongeur de la cafétéria l'aille. Et ça, c'était une job qui prenait à peu près 10-15 minutes. Donc c'était juste de mettre les assiettes dans les bacs puis les ustensiles dans les bacs. Et puis, on avait le droit à une portion extra de dessert, si on faisait ça. Donc, moi, j'ai fait beaucoup... En fait, j'avais oublié ça, mais c'est là que j'ai commencé à la plonge, en fait.
Tout ça pour avoir
des morceaux de bagatelle en plus, tu sais. Mais c'était...
Bagatelle, c'est quoi ça?
La bagatelle, c'est un restant de tous les desserts mis ensemble. Donc, c'est un petit peu de gâteau avec un petit peu de crème, avec un petit peu de... Tu mélanges tout. Puis, en fait, c'était souvent le dessert qu'on avait parce qu'ils mélangeaient tous les desserts ensemble. On appelle ça une bagatelle.
C'est comme ça que tes premiers contacts avec la cuisine,
mais mes relations avec la nourriture sont vraiment... Il y a de quoi de psychologique, là. Vraiment, tu pourrais être un cas étudié. C'est parce que j'avais plusieurs gardiennes aussi, chez mon père, chez ma mère. Mes parents partaient souvent. Moi, je me faisais garder souvent des étés au complet. Je me faisais garder à une ferme à Berthier-sur-Mer. Et puis là-bas, ben le menu, c'était pas mal juste du steak, de la viande hachée avec des patates bouillies puis des légumes trop cuits. Donc, mais je me fais ça des fois. Des fois, mon souper, ça va être des pommes bouillies avec un brocoli un peu trop cuit puis une belle grosse boulette de steak haché. Puis je suis très content. Ouais, mais tout ce qui me fait penser à une grand-maman, tout ce qui me fait penser à ce que mes grands-mères me faisaient ou ce que mes parents me faisaient, nos plaisirs sont associés directement avec nos plaisirs sont associés directement. Et la nourriture, certaines personnes ne sont pas du tout touchées par ça. C'est comme la musique ou quoi que ce soit. Mais la nourriture, je crois que c'est ce qui peut toucher le plus de gens. Et puis, quand tu es capable de faire une association, de dire à quelqu'un, goûtez ce plat-là. Puis là, le plat, c'est fait. C'est un plat qu'ils vont manger au mousseau. Donc, c'est un plat, là, tu le reçois, c'est très abstrait. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Puis là, tu goûtes, puis finalement, c'est un goût que tu connais. Puis là, je te dis, pensez à ça. Puis là, tu fais... Ah, c'est vrai, ça me fait penser à... Quelque chose, ça pourrait être banal des fois, mais c'est bien beau de sortir les gens des sentiers, de leur confort, mais il faut les ramener dans le confort. Puis tous les souvenirs de nourriture, tout le monde a une joie en pensant à un souvenir de nourriture. Ou des malheurs. Je veux dire, c'est pas tout, si t'as été élevé au sandwich aux sardines, c'est pas de ma faute, mais je veux dire...
Tes parents, ils avaient pas un peu peur en voyant ton régime alimentaire de cafétéria, là? Ils essayaient pas quand même de te faire manger en douce quelques légumes?
Mais écoute, je mangeais rien quand j'étais jeune, je mangeais absolument rien. Je refusais de manger tout ce qui était vert, tout ce qui était légumes, tout ce qui était... la viande, j'avais de la misère. J'aimais le fromage, le saucisson, le pain, les croissants et les chocolatines. C'était pas mal ça. Mais par après, j'ai eu un switch un moment donné dans ma vie, puis j'ai commencé à manger de tout.
T'avais quel âge?
Peut-être 10 ans, 9-10 ans.
Pourquoi le switch?
C'est weird, c'est avec une choucroute. J'étais allé en France avec mon père et puis j'avais une odeur de choucroute dans la tête qui me dégoûtait. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je suis arrivé, j'ai dit, je veux manger une choucroute. Je suis prêt et je l'accepte. Et puis, je me suis comme ouvert un jour et il y a rien que je mange pas. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Mais si tu me mets quelque chose à manger devant moi, jamais je vais le refuser. Mais
qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? T'es devenu d'un coup très curieux?
Ouais, puis c'est le début de mon aventure avec la cuisine aussi. C'est le début de... En fait, moi, j'avais un chalet, puis les seules chaînes de télé qu'on avait, c'était une chaîne américaine puis une chaîne Radio-Canada. Alors, le matin, il y avait des émissions pour enfants. Et puis tout de suite après, on tombait aux émissions pour cuisine le samedi. Des émissions de cuisine. Donc, aux deux postes, j'avais des émissions de cuisine et puis j'écoutais les émissions de cuisine. Puis je pense que ça a fait un déclic. J'ai su que c'est ça que je voulais faire. Et puis un jour, j'ai décidé que je voulais que je m'ouvrais à tout. Et puis j'ai commencé à manger. Je suis passé de quelqu'un qui mangeait rien à quelqu'un qui mange tout.
Qui a cru que ce serait une choucroute qui aurait déclenché ça?
Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai encore l'odeur de la choucroute qui me dégoûtait au-dessus. Mais je peux la remplacer par une bonne odeur d'une bonne choucroute bien grasse et bien chaude.
Tu parles à un Vosgien là, qui est né dans les Vosges. Fait que moi, la choucroute, c'est sacré. Hein.
Non, mais t'inquiète, j'en fais une très bonne.
Tu te rappelais de ce que tu demandais comme plat pour ton anniversaire quand tu étais enfant?
Ouais. Ouais, moi, c'était du Kentucky. Poulet frit Kentucky.
Donc, commandé au KFC?
Ouais.
pas fait maison, hein?
Ouais, non, pas fait maison. Non, c'était pas. Non, moi. En fait, à mon anniversaire, j'avais plusieurs.
Ça, c'est parce que tu les as vus dans des clips hip-hop, ça?
Non, mais non, pas du tout. Attends, j'étais encore plus jeune que ça. Là, je te parle. Je me rappelle de fête. Je me rappelle de ma fête. Je pense que j'avais 8 ans. Puis mon père achète le KFC dans les gros barils. Puis il l'a fait réchauffer dans le four, mais le baril était trop proche de l'élément, fait que ça a pris en feu. À ma fête, mon gros trip avec mes amis, c'est qu'il y avait un Ben & Jerry's au coin de chez nous. Ben & Jerry's, c'est une compagnie de crème glacée. Et puis, à l'époque, ils appelaient ça le Vermonster, donc le monstre du Vermont. Et puis, c'était littéralement 40 boules de crème glacée avec 20 biscuits, 10 brownies, 5 bananes, crème fouettée, tout ce que tu voulais. Alors, on allait là-bas, moi et mes amis, à ma fête. Puis on s'assoyait, une dizaine de petits garçons. Là, puis on avait la grosse panne, puis là, on mangeait.
Si tu avais l'opportunité de parler à l'enfant que tu étais et lui faire passer un message, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
Fais attention à ta santé. Oui. Ben, j'ai des années d'abus, d'abus de malbouffe, d'alcool, de drogue, de tout. Moi, je viens du... Je viens du milieu de la restauration, qui est l'ancien milieu, je trouve. Maintenant, tout a changé. Puis, je veux dire, même moi, avec le restaurant, j'essaie de donner des conditions de travail complètement différentes que ce que moi j'ai vécu à l'époque. Mais j'ai beaucoup hypothéqué ma santé parce que je suis parti de chez moi très jeune. Puis, je me suis occupé de mes affaires moi-même. Mais en même temps, je dirais, mange mieux. Apprends à mieux manger aussi parce que je suis quelqu'un de... Comme je disais tantôt, j'ai manqué de nourriture un peu à cause du français. Donc, j'ai tendance à, si je vais au restaurant, puis un steak 26 onces, puis un steak 40 onces, ben je vais prendre le 40 onces.
Je pense pas que tu te serais vraiment écouté si toi, tu disais ça.
Ouais. Ça m'a fait ta gueule. Dégage, vieux con.
Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Antonin ne fait décidément rien comme tout le monde et nous a réservé une surprise pour la dernière émission de la saison.
Antonin, dis-moi le plat que tu cuisines aujourd'hui et qui représente ton enfance selon toi.
Le grilled cheese.
Ouais.
Mais on va même pas le cuisiner, on va aller chercher déjà tout fait.
Oh, c'est-à-dire?
Ben, on va aller chez Phil, juste à côté d'ici, parce qu'ils font des très bons grilled cheese. Parce que l'art de faire un grilled cheese, c'est pas de mettre des oignons confits puis des pommes avec un petit roquefort puis un petit... Non. Un vrai grilled cheese, c'est de la margarine, du pain blanc pomme, du fromage orange Kraft. Là, on va aller s'en chercher un juste à côté. On va faire mettre un petit extra bacon dedans avec un lait au chocolat, tu vas voir. Ça va nous ramener en enfance.
Je suis déçu, je pensais qu'on allait aller à la cantine de Radio-Canada.
Ben, écoute, si on avait le temps, parce qu'en plus, il faut en profiter parce qu'ils la détruisent dans pas longtemps.
Ouais,
mais moi, j'en profite à tous les fois où je vais à Radio-Can faire une petite émission de radio ou des trucs, je vais quand même assez fréquemment. Puis tout le temps, je fais un arrêt. Mais là, on va s'imaginer à la cafétéria de Radio-Can.
Ça marche.
Tu voulais voir le quartier, mais tu vas le voir.
Yes!
Aller chez Phil, c'est une expérience en soi. Salut!
Donc, la première arrêt, dépanneur?
Ouais, petit lait au chocolat. Tiens. Un lait au chocolat, c'est moi.
C'est bon?
Salut!
Oh, le mec a une note au dépanneur d'en face, quoi.
C'est sûr?
T'achètes quoi des panards à part des clubs?
Chez Brière, on achète de la bière. C'est le plus grand vendeur de bière à Montréal. J'espère qu'il n'y aura pas une ligne d'attente. Salut! Prendre deux grilled cheese take-out pour emporter. Deux grilled cheese bacon en take-out.
Oui.
11 et 40. Deux cheese avec bacon.
Et ici, c'est quand les fois que tu viens ici?
Avant les shifts, quand on est lendemain de veille. J'amène, quand je reçois des chefs américains, je viens tout le temps chercher des hot dogs, des rondelles d'oignons.
C'est marrant qu'après le discours sur faire attention à sa santé, tu m'emmènes direct.
Je sais. Mais bon, tu m'as demandé qu'est-ce que.
On s'en fait pas, hein.
C'est ça, tu m'as demandé qu'est-ce qui me ramenait dans mon enfance, mais c'est ça.
C'est ici.
Mais quand on veut un bon burger, c'est une bonne frite ou un bon burger, ben ici, ils hachent leur viande sur place. Fait que les hamburgers sont particulièrement. Puis ils laissent croûter, fait que ça fait une belle croûte.
Oui, ça, je vois, il y a une belle croûte là.
Non, c'est pas. On n'est pas n'importe où ici, là. Super. Ben, merci beaucoup.
Merci, bye bye. Bonne journée.
Merci. On sent déjà le beurre, hein?
Ah oui, c'est. Regarde. Il en manque pas. Hein.
Antonin, tu vas me dire si ça goûte comme.
Écoute, je vois pas pourquoi ça goûterait pas comme c'est supposé goûter.
Ça goûte l'hôpital, ça goûte Radio-Canada ou ça goûte l'internat?
Ça goûte tout. Deux sortes, non. Ah non, ça goûte vraiment ce que c'est supposé goûter. Le petit côté un peu mou en dessous.
Est-ce que t'as des enfants?
Non.
Est-ce que tu veux avoir des enfants un jour?
Ouais, mais... Disons que c'est pas le bon moment avec les restos pis tout.
Ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu leur ferais manger? Tu leur ferais manger ce genre d'affaires?
C'est sûr que oui. J'avais la discussion avec mon chef exécutif qui est italien. Sa belle-mère a mis du ketchup dans les pâtes de son fils l'autre fois pis...
Oh!
Il était fâché. Moi, j'ai rien contre ça. Ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petit, puis j'aimais ça. Fait que, non, mais c'est sûr que je vais pas pousser mes enfants à la malbouffe, mais pour moi, un bon grilled cheese avec un lait au chocolat, c'est très acceptable.
Mm-hmm.
Autant qu'une salade de quinoa et de fèves de soya germées.
Merci énormément à Antonin pour son temps et sa confiance pour ce 12e épisode de La Bouche Pleine. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission, @commercial, La Bouche Pleine, podcast. J'ai tenu mon pari, réaliser un épisode par mois pendant un an sur ce sujet qui me tient à cœur. Merci encore à tous les chefs qui se sont prêtés à cet exercice. J'avais aucune idée qu'une heure de votre temps serait aussi difficile à obtenir. J'ai profité de cette année pour me poser beaucoup de questions sur la saison 2 de ce podcast. Peut-être vous l'avez senti avec l'épisode hors série à Paris avec Julien Femme. Mais j'avais envie de sortir des cuisines des restaurants et d'aller à la rencontre des gens qui travaillent dans l'univers culinaire sans pour autant être dans un restaurant. Critique culinaire, vignoble, photographe, boulanger, je vais sortir mes micros pour avoir des rencontres différentes et en gardant l'esprit bouche pleine, partager un plat ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on n'entendra plus les histoires d'enfance des chefs? Pas forcément. Je réfléchis à l'idée d'alterner les thématiques entre chaque épisode. Dites-moi ce que vous en pensez sur l'Instagram de l'émission et si vous avez des suggestions à me faire. Je me répète, mais c'est vrai, ce podcast est indépendant et n'existe que grâce à votre soutien. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les médias sociaux. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Merci mille fois pour votre écoute. Je prends une petite pause en septembre pour l'arrivée d'un heureux événement. Et on se donne rendez-vous dans quelques temps pour la deuxième saison de La Bouche Pleine.